crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Ensemble, aujourd'hui, nous observons une peinture intitulée « La Tentation de Saint-Antoine » ou que nous appelons le triptyque de Saint-Antoine, réalisé vers 1501 par le fameux Jérôme Bosch. C'est une huile sur panneau dont le volet central fait 1,31 m de haut environ et les trois autres panneaux composent un ensemble qui doit faire dans les 2,40 m à peu près. Il est conservé au Museu Nacional de Arte Antiga de Lisbonne, au Portugal.
Pourquoi mourir, Antoine ? Tu ne la connais seulement pas, cette vie que tu abandonnes. Par les nuits d'été, les flots déploient des feux dans leur écume, et le ciel est pailleté d'or comme la robe d'une princesse. T'es-tu balancé sur les grandes lianes ? Es-tu descendu dans les mines d'émeraude ? A-t-on frotté ton corps en sueur avec des essences fraîches ? As-tu seulement dormi sur une peau de cygne ? Flaubert, La Tentation de Saint-Antoine.
Quand le triptyque est fermé, le regardeur est confronté à deux grands panneaux verticaux bruns, ouverts comme en trompe-l'œil par deux scènes découpées en forme d'ogives et peintes en grisaille. Chacune est consacrée à l'une des deux épreuves du Christ, son arrestation suite à la trahison de Judas à gauche et sur l'autre, le portement de croix. Quand ces volets s'ouvrent, se déploient, apparaît par contraste un jaillissement de couleurs qui s'éparpille sur un paysage en trois parties, dont la ligne d'horizon continue permet à l'observateur de parvenir à voir d'abord l'unité générale de la composition. Mais quand le regard glisse le long des crêtes montagneuses qui s'alignent dans la partie haute de l'œuvre et parcourt les trois grands panneaux, à chaque fois, le personnage de Saint-Antoine, vêtu de son habit de moine, apparaît au centre. Sur le volet gauche d'abord, il paraît épuisé, soutenu par ses compagnons qui l'aident à passer un pont périlleux, au loin, une mer ou un lac et un bateau qui fait naufrage et dans le ciel, une bataille aérienne d'êtres fantastiques se déroule. Tandis que les cours du paysage révèlent sous certains gonflements ou dans des cavernes ou des montagnes dans lesquelles des êtres étranges fomentent des actions mystérieuses. Au milieu du plus grand des panneaux de ce retable, Saint-Antoine est cette fois-ci agenouillé face à une architecture qui laisse apparaître le Christ dans sa passion, tandis qu'autour de lui grouillent animaux, chimères, homoncules, végétaux, mille délires, tant dans le ciel que sur la terre, qui incendie l'esprit du saint et de celui qui contemple l'œuvre. Enfin, à droite, la composition se calme, tandis qu'autour de Saint-Antoine, qui lit paisiblement, des tentations, femmes, repas, animaux, tentent de le détourner de sa lecture sans y parvenir. Des tentations qui se déroulent dans un paysage plus calme, mais qui continuent de le persécuter, n'atteignant plus que son indifférence. Seul au loin, un chevalier et un dragon s'affrontent sous les remparts des forteresses. Drôlerie, imagination, mais aussi un bestiaire savant, des allusions certainement précises, au moment où, dans cette fin tourmentée du Moyen-Âge, monde magique et raison se combinent pour faire surgir ces étranges figures.
Dans leur apparence extérieure, ces trois triptyques énigmatiques, le Millennium ou Jardin des Délices, La Tentation de Saint-Antoine et le chariot de foin sont fermement enracinés dans la tradition des derniers retables gothiques. Cependant, leur contenu est tellement incompatible avec leur fonction de culte qu'ils ne peuvent pas avoir été exposés dans une église, aux yeux d'une congrégation. Ils sont par conséquent relégués à un vide parce qu'en tant que retables en manque de congrégation, ils sont abandonnés à la dérive d'un no man's land. Wilhelm Pringer, Le royaume millénaire de Jérôme Bosch, 1966.
On entendait à l'instant un extrait, et on va y revenir, d'un des grands regardeurs de Jérôme Bosch, Wilhelm Frenger. Mais avant d'en parler, je voudrais vous présenter nos invités. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Gérard Garousse. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, je vous remercie.
Je suis content que vous soyez revenu de Lisbonne. Vous êtes allé voir ce retable récemment.
Eh bien oui, c'est un peu le hasard, parce que j'étais quelques jours à Lisbonne. Et vous savez, encore aujourd'hui, dans ce musée qui est assez extraordinaire, vraiment, c'est le Jérôme Bosch qui attire le plus d'attention. Il y a vraiment tout, les gens regardent avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et dans les musées, vous savez, on voit les gens passer comme ça, un petit peu, là, de voir des chefs-d'œuvre. Tandis que là, pour ce triptyque, les gens s'arrêtent vraiment.
Alors, nos auditeurs le savent, vous êtes un grand artiste, vous travaillez beaucoup à partir des textes depuis longtemps, par exemple, Don Quichotte, le Talmud, vous préparez une exposition qui s'appelle, comment elle s'appelle ?
Là, c'est un livre, Megillah Esther.
Le Megillah, c'est un double sens, non ?
Oui, c'est un double sens. D'abord, Megillah Esther, c'est un rouleau. Ça fait un peu comme les Sefer Torah qui étaient sur rouleau. Megillah Esther, c'est donc le rouleau d'Esther. Et en fait, c'est drôle parce que c'est un jeu de mots entre Megillah Esther, qui veut dire le rouleau d'Esther, mais vous savez, Esther, ça vient du verbe leistir, qui veut dire cacher, et Megillah, ça veut dire aussi dévoilement. Donc ce rouleau d'Esther veut dire aussi le dévoilement du caché.
Révéler le caché. Au fond, c'est souvent un aspect dans votre travail, il y a la recherche de ce qu'il y a derrière les mythes, très souvent. C'est un chemin, en fait, cette peinture que vous faites, pour explorer les textes, les mythes.
Bien sûr. Ce livre, par exemple, Le rouleau d'Esther, qui est un livre très contemporain, parce que c'est vraiment l'actualité, c'est quand même le seul livre de toute la Bible où le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, n'existe pas. Il faut le trouver, il faut le chercher, il est quelque part, mais ça fait partie du dévoilement, justement.
Alors, vous venez d'avoir une très belle rétrospective à la Fondation Mergue, qui s'appelait justement « Quand la peinture est en chemin ». Et vous préparez une exposition à Mons, au musée, en septembre l'année prochaine.
Voilà.
Et donc, et vous avez publié, il n'y a pas très longtemps, un livre très beau, qui s'appelle « L'intranquille », et qui est un livre magnifique sur votre vie.
Oui.
Voilà. Et alors, nous allons pouvoir, grâce à votre passion, comme ça, pour la peinture, explorer cela, et nous allons être soutenus pour avoir les connaissances les plus sérieuses par Alain Tapier. Bonjour Alain.
Bonjour.
Vous savez, Alain, je vous suis très très reconnaissant de m'avoir fait visiter l'exposition en 2012, et c'est pour ça que nous revoyons avec, pour moi, une très grande joie, cette exposition à Lille qui s'appelait « Les fables du paysage flamand au XVe siècle », qui est inoubliable, dans lequel il y avait un rassemblement de prêts extraordinaire. Vous êtes donc conservateur en chef du patrimoine, vous avez été directeur du musée des Beaux-Arts de Caen jusqu'en 2003 et ensuite directeur du musée des Beaux-Arts de Lille. Et alors, vous êtes en grande réflexion, préparation d'une exposition qui est encore dans votre esprit, mais qui va être passionnante, je crois, symboles et illusions dans la peinture flamande du XVIIe siècle.
La peinture flamande et hollandaise. Le sujet est prêt. Il ne manque plus que le musée.
Ça va venir, j'en doute pas, parce que quand vous faites des expositions, vous avez l'habitude de dénicher des œuvres tellement importantes. Et d'ailleurs, il y en a une qui se prépare, je crois, à Orléans, une de vos expositions, sur de l'allégorie réelle. Alors, pour moi, ça rappelle Courbet, mais dans votre esprit, c'est autre chose.
Dans mon esprit, c'est comment, autour de Judith, David, Salomé, autour de ces figures qui sont des figures de l'instant décisif, puisqu'il s'agit à chaque fois d'une décapitation, eh bien comment l'instance réelle se resserre sur une forme allégorique, sur une composition allégorique.
Alors, est-ce que, Gérard Garousse, quand on regarde ce incroyable tableau sur la tentation de Saint-Antoine, est-ce qu'on est dans une allégorie, selon vous ? Est-ce que c'est un mot qui peut
C'est pas la première chose qui me vient à l'esprit, mais mon choc, c'est de resituer ce tableau, d'oublier un peu les époques, et de voir comment c'est perçu aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, c'est plutôt une histoire de transmission. Vous voyez, après, on peut parler des détails, de toute la symbolique, etc., mais la première chose qui m'intéresse, qui me rassure, c'est qu'est-ce que c'est que ce tableau si petit par rapport aux œuvres contemporaines d'aujourd'hui, qui est finalement assez intemporel et qui, par un métier extrêmement simple, la peinture à l'huile, c'est hors du temps, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Vous savez, ça me fait penser comme procédé exactement comme la magie. C'est-à-dire, il y a deux types de magiciens. Il y a un magicien qui retourne ses manches et puis qui manipule des dés ou des cartes ou des boules, elles disparaissent, c'est tout à fait extraordinaire. Ou alors vous avez le magicien qui prend une grande armoire dans laquelle on peut couper des femmes en rondelles, mais ça, ce tour-là, il suffit d'acheter l'armoire, en fait, c'est un tour qui s'achète. Tandis que la manipulation avec les doigts, c'est beaucoup plus compliqué. Je veux dire par là que il y a une économie de moyens qui, moi, en tant qu'artiste actuel, ça me fascine parce que il y a pas besoin de je par la peinture on peut il y a encore beaucoup d'avenir. Et là on parle de symboles, après on peut rentrer dans le sujet, mais c'est la première sensation que j'ai eue, mais c'est extraordinaire, la peinture sera toujours là.
La peinture non mais et le tableau, ce que vous voulez dire c'est que le tableau nous atteint encore, quelle que soit notre culture d'aujourd'hui, on est touché par l'œuvre.
Oui, on est touché par cette, encore une fois, par. On n'est pas, justement, là, on n'est pas dans la modernité et quelque chose de tout à fait passionnant. On est au-delà de la modernité. On est dans une sorte, un moment qui fait que la peinture elle-même devient un mythe. C'est-à-dire, avant même de rentrer dans le mythe qui est représenté, le mythe de Saint Antoine. Avec le côté religieux, etc. Le procédé est déjà du côté du mythe. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encore aujourd'hui, à mon avis, vraiment redécouvrir. On peut parler aussi de la symbolique. Je trouve qu'on est à une époque où on perd les symboles, on perd le sens des symboles.
Gérard Garou, c'est Alain Tapie, va nous aider là-dessus. Quand Jérôme Bosch a fait cela, évidemment, il est un très grand peintre,
oui,
déjà.
Oui, enfin, il y a une cinquantaine d'années.
Voilà. Mais c'est une peinture qui, en même temps, est totalement nouvelle, Alain Tapie. Est-ce que c'est une peinture totalement nouvelle?
Alors, c'est plutôt Jérôme Bosch qui est un peintre totalement nouveau. Mais ce qu'il peint n'est pas du tout nouveau. C'est la peinture de son temps. On a l'habitude d'aborder Jérôme Bosch par l'énigme. Et c'est intéressant,
mais
ce n'est pas suffisant.
Ouais, ouais.
Parce que l'énigme nous conduit à ce que, justement, Wilhelm Franger disait, c'est-à-dire nous conduit à des recherches sur l'occultisme, sur les choses étranges, bizarres, sur ce qui est irrationnel. Or, Jérôme Bosch est un peintre de la raison. C'est très étonnant, mais c'est un peintre de la raison. C'est un peintre qui est habité par une conviction spirituelle qui lui est léguée par ce qu'on appelle la dévotion moderne. Et cette dévotion moderne, c'est une manière qui de prier, de penser la dimension spirituelle de façon individuelle en se fabriquant précisément son chemin de vie, comme vous le disiez. Et chemin de vie sans tenir compte des modèles qu'on nous offre, les saints, sauf le modèle du Christ et le modèle de certains ermites. Alors, le premier bain intellectuel de Jérôme Bosch, c'est bien cette dévotion moderne.
On est au moment d'une dévotion moderne, vous avez raison de le rappeler. C'est la réforme chrétienne de l'époque. On est avant la réforme protestante. On est au moment où il y a une relecture des textes, une sorte, n'est-ce pas ?
Les grands événements, la plupart du temps, n'ont pas de date. Les vrais grands événements. Et ce sont des choses qui sont diffusées comme ça. Cette manière de pouvoir se dire, après tout, je vais prendre ma vie en charge, je vais regarder la nature comme modèle, et je vais précisément, certes, prendre le modèle de la figure du Christ, on le voit bien au revers du triptyque, mais prendre aussi le modèle de certains saints anachorètes en particulier, parce que ce sont des solitaires. Ce sont des êtres qui doivent, non pas tellement regarder le monde, mais regarder en eux-mêmes. Et c'est cette exigence qui est donnée. Alors, à partir de là, eh bien, nous sommes dans une approche, je dirais, globale concernant Jérôme Bosch. Et nous devons, et ça, le regarder avec des clés peut-être de lecture, des modes de lecture qui sont précisément très ouvert.
Alors, avant d'en arriver là, Gérard Garou, je vous lis réagir, j'ai l'impression.
Oui, vous n'avez pas l'impression que par rapport à l'époque, par rapport aux peintres de l'époque, il y a tout d'un coup où il y avait des commandes, justement, soit des commandes religieuses ou soit des portraits, tout d'un coup, il y a ce sujet, comme tous les sujets de Jérôme Bosch, il y a le sujet qui est traité, et puis tout d'un coup, hop, il y a une dérive onirique, il y a une dérive comme si c'était un rêve, et moi, le sentiment que j'ai en regardant ce tableau-là, c'est que tout d'un coup, le sujet, la tentation de Saint-Antoine, pardon, ça devient presque un alibi pour son délire personnel, pour se faire plaisir. Je trouve que la manière dont sont associées toutes ces petites scénettes, on a l'impression qu'il suit le pinceau, c'est-à-dire que c'est un empattement l'entraîne à faire une tête de monstre avec trois plumes derrière et que, vous savez, pas loin, en plus abouti qu'un dessin de téléphone, vous savez, où machinalement on dessine. Et ça, à l'époque, je vois pas quel peintre peignait comme ça, si vous prenez les...
Pardonnez-moi, je crois que c'est presque le contraire, mais j'ai quelques éléments pour vous indiquer comment on arrive à ce que vous êtes en train d'indiquer à propos de Jérôme Bosch. Je parlais de la dévotion moderna, il faut aussi envisager le regard que Bosch a sur la société. Il a un regard qui est conduit par une exigence qui est celle... Une exigence spirituelle, c'est vrai, mais qui n'est pas théologique, qui est morale. Et donc, c'est un homme qui porte un regard sur la société. Et on verra quel type de regard, en examinant les grands triptyques, il porte sur la société. Mais il le fait à travers une méthode très rigoureuse qui comprend ce que vous indiquez. Il a un rapport au texte. Et il y a beaucoup de textes dans lesquels sont présentes, à travers des poèmes, à travers des dictons, les extravagances de Bosch sont déjà présentes.
Elles sont... Parce qu'il voulait dire qu'il est érudit,
il vit dans un milieu érudit, très cultivé, oui. Il fréquente ce qu'on appelle les frères de la vie commune, qui sont ceux qui précisément diffusent l'idée de la dévotion moderna.
La confrérie de Notre-Dame.
Confrérie de Notre-Dame, tout à fait. Il n'a pas connu Érasme, mais Érasme a travaillé, a habité, a étudié à Bois-le-Duc en particulier.
Alors Bois-le-Duc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'endroit où a vécu Jérôme Bosch, c'est son endroit de naissance d'ailleurs, de sa famille, lui-même étant d'une famille de peintres.
De peintres, c'est ça.
Et le nom de Bosch vient du nom flamand de Bois-le-Duc, je ne sais pas comment on le dit.
Oui, Sertogenbosch. Voilà. Et alors, donc il a un rapport au texte, il les connaît, il a un rapport littéral au texte, c'est vrai, il peut aussi bien illustrer certains textes.
Pardon Alain, juste, Gérard nous disait, au fond, il y a une sorte de liberté qui se crée, ce qui ne veut pas dire que c'est pas une liberté sans savoir.
Je vais y venir. Il a un rapport allusif aussi au texte, c'est-à-dire qu'il les connaît, mais il l'oublie, il les laisse de côté, il les interprète. Il a un rapport allégorique au texte, c'est-à-dire qu'il peut transcrire un proverbe, un dicton, connu de l'époque, oublié légèrement, qu'il fait revivre, ou au contraire, pour nous, totalement oublié. Il a un rapport aux objets, qui est un rapport emblématique. C'est-à-dire qu'il y a des symboles connus, partagés à l'époque. L'entonnoir symbolise la folie, par exemple, des choses comme ça. Bon. Et il a cette forme, qui est son invention toute particulière, de creuser dans la nature des formes d'hybridation. Il choisit, il est passionné par la nature, mais il la réinvente, tout le temps. Il ne la laisse pas telle qu'elle, ni naturelle, ni même réelle d'ailleurs. Et alors cette hybridation, il fabrique des emblèmes nouveaux. Ils sont le fruit de son imagination. Ils sont le fruit de ce qu'on lui raconte et ils sont faits aussi pour ceux qui viennent. Ce sont comme des œuvres ouvertes. Et il y a donc un mélange formidable, toutes ces manières de lire se croisent. Il n'y en a pas, une qu'on peut privilégier. Et le tissu de création forgé par Bosch est essentiellement mu par cette dimension formidable de l'hybridation qui fait que c'est un objet qui a l'air emblématique. On dit, mais oui, mais ça veut dire quelque chose, mais on ne sait pas. Et Bosch le sait peut-être pas non plus, il l'a ouvert, et c'est à nous de... C'est pourquoi c'est l'actualité de Bosch.
Exactement. C'est toujours... Oui, mais alors, vous savez, si on reprend la définition de ce que c'est un artiste c'est quelqu'un qui excelle dans son métier. Autrement dit, un avocat peut être un très bon artiste, un plombier peut être un artiste. Bon. Donc, à cette époque-là, les peintres étaient des artistes dans la mesure où tous étaient très compétents, connaissaient leur métier parfaitement. Mais là où Jérôme Bosch est plus que ça, c'est que c'est un poète. C'est-à-dire, tout ce que vous venez de dire, c'est une manière de définir une poésie. C'est-à-dire, c'est un poète. Je crois que dans la mythologie grecque, enfin dans la pensée grecque, on parle avant tout de la poésie, et l'art est en dessous de la poésie, mais avant tout c'est la poésie. Et là, je crois que ce qui est extraordinaire et ce qui est très intemporel, c'est la poésie de Jérôme Bosch, et tout ce que vous dites c'est vrai, c'est-à-dire que tout d'un coup on peut retrouver une histoire, on peut retrouver un petit symbole, l'entonnoir sur la tête, etc. Mais c'est l'espace entre les figures qui donne du sens à son œuvre et qui nous fait délirer avec lui. C'est délire en même temps, c'est ça qui est quand même tout à fait extraordinaire.
Il y a un savoir joyeux.
Il y a
le savoir devient joyeux, il devient un gai savoir en fait, strictement.
Exactement. Et c'est pour moi la plus belle définition que je puisse lui donner, c'est que à la limite, le peintre, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Pour moi, c'est un merveilleux poète.
Oui.
Écoutons à présent donc un extrait du célèbre texte de Flaubert sur la tentation de Saint-Antoine. Nous ne quittons pas notre domaine et nous y reviendrons.
C'est dans la Thébaïde, en haut d'une montagne, sur une plateforme arrondie en demi-lune et qu'enferment de grosses pierres. La cabane de l'ermite occupe le fond. Elle est faite de bouées de roseaux à toit plat, sans porte. On distingue dans l'intérieur une cruche avec un pain noir. Au milieu, sur une stèle de bois, un gros livre. Par terre, ça et là, des filaments de sparterie, deux ou trois nattes, une corbeille, un couteau. À 10 pas de la cabane, il y a une longue croix plantée dans le sol. Et à l'autre bout de la plateforme, un vieux palmier tordu se penche sur l'abîme, car la montagne est taillée à pic et le Nil semble faire un lac au bas de la falaise. La vue est bornée à droite et à gauche par l'enceinte des roches, mais du côté du désert, comme des plages qui se succéderaient, d'immenses ondulations parallèles d'un blond cendré s'étirent les unes derrière les autres, en montant toujours. Puis au-delà des sables, tout au loin, la chaîne libyque forme un mur couleur de craie, estompé légèrement par des vapeurs violettes. En face, le soleil s'abaisse. Le ciel dans le nord est d'une teinte gris-perle, tandis qu'au zénith, des nuages de pourpre disposés comme les flocons d'une crinière gigantesque s'allongent sur la voûte bleue. Ces raies de flammes se rembrunissent, les parties d'azur prennent une pâleur nacrée. Les buissons, les cailloux, la terre, tout paraît dur comme du bronze, et dans l'espace flotte une poudre d'or tellement menue qu'elle se confond avec la vibration de la lumière. Gustave Flaubert, La Tentation de Saint-Antoine, 1874.
Alain Tapier, nous entendions à cet instant le texte de Flaubert sur Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est un ermite du IVe siècle. Et tout d'un coup, on voit l'extraordinaire tableau qu'en fait Jérôme Bosch. C'est ce que nous regardons en ce moment dans cette émission. La Tentation de Saint-Antoine, qui est une sorte d'étrange écart entre la saveur et le savoir, la raison et la déraison. Alors, pourquoi Saint-Antoine, qui est au fond un délirant, vous permet de dire quand même que c'est un tableau qui a un lien avec la raison, alors que c'est un tableau de la déraison.
D'abord, Saint Antoine nous regarde. Il a résolu un certain nombre de choses et il nous regarde. Et il nous incite à suivre un chemin qui serait un peu semblable au sien. Il a eu des difficultés, il en a probablement encore. Les difficultés qu'il a eues sont-elles celles de sa jeunesse, des péchés qu'il a commis, ou sont-elles celles des fantasmes, des images et des idées qu'il a toujours, bien que déjà vieux et âgé? De temps en temps, il se fait balader par les démons dans le ciel, et il est là totalement, physiquement incarné, et de temps en temps, il est là comme figure centrale, à côté de l'image du Christ qui est derrière. Il nous regarde, en somme, indifférent à toutes les tentations. Donc, saint Antoine nous montre tout le chemin parcouru depuis ce qui aurait pu être la débauche, et la débauche s'étend largement autour de lui, et tout ce qui doit être, eh bien, la constance, la persévérance et la construction du chemin de vie.
Vous voulez dire que Saint-Antoine...
Voilà la raison de Bosch.
Vous voulez dire que Saint-Antoine est un vainqueur, et que c'est ce vainqueur que l'on admire à ce moment-là dans cette dévotion.
C'est un vainqueur qui n'a jamais terminé son combat. Il n'est pas sûr d'avoir gagné. On n'est jamais sûr d'avoir gagné. Ce combat est infini. Et c'est ce que montre très bien cette immobilité, ce statisme de saint Antoine, alors que les tentatrices sont extrêmement proches. Les magiciens sont tout à côté. Et quantité de symboles qui l'entourent, qui sont des symboles, je dirais, de l'ordre de la globalité, comme ces œufs qui se mettent à éclore, qui sont des symboles du monde en même temps, ces œufs qui se transforment en barque, car l'œuf et la barque deviennent, c'est une mutation, c'est une hybridation, ces arbres qui se transforment en personnages, car, eh bien, dans l'arbre creux, le creux est toujours symbole du mal, eh bien, il y a la jeune femme qui vient tenter Saint-Antoine dans une séquence où il se remet de ses émotions, de ses voyages dans l'air, pour se retrouver encore en prière, mais avec tout près, cette jeune femme qui ne regarde pas, mais elle le regarde et se tient le sexe. Donc, ce n'est jamais fini.
Mais alors, quel beau sujet, Gérard Garouste, au fond, que l'attention de Saint-Antoine pour donner libre cours à la poésie.
Vous savez, ce que vous venez de dire, ça me convainc sur le fait que un tableau appartient à celui qui le regarde. Je perçois pas du tout ce tableau comme vous le faites.
C'est pour ça que les regardeurs sont toujours au pluriel.
Voilà, ce que vous venez de dire, c'est votre regard et c'est très très bien. À la limite, je vous dirais que moi, je ne connais pas la vie de Saint-Antoine et quand je suis devant ce tableau, j'ai pas envie de connaître Saint-Antoine. Je me retrouve dans cette situation exactement comme à l'époque où j'ai travaillé sur la Divine Comédie de Dante.
Oui.
Et je me souviens qu'en travaillant sur les personnages des Enfers, je me souviens que tout d'un coup, Dante, quand il commence à parler des personnages, par exemple un personnage comme Bertrand de Borne, il y a une multitude de détails. Et plus il est précis dans les détails, moins on y comprend quelque chose. Tout d'un coup, il y a une espèce de vertige qui est fascinant. Eh bien là, je retrouve ce même vertige. C'est-à-dire que, bien sûr que je me passionnais aussi pour les symboles, comme vous le faites, sur l'œuf par rapport à la barque, etc. Mais ma première lecture, c'est de voir cette multitude de détails qui m'enivre. Il y a une ivresse. Et le sujet de ce, pour moi, le sujet de ce tableau, je dirais que, avant de parler de Saint-Antoine, c'est l'ivresse qui passe, c'est le délire. Et on se servirait, à la limite, Saint-Antoine, est-ce qu'il ne se sert pas de Saint-Antoine pour avoir un merveilleux alibi par rapport à l'époque? Il fallait bien parler de saints, parler de... Alors, le Christ est tranquille, il est bien respectueux et tout ça, mais alors, allons-y sur tout ce qui peut délirer. Vous savez, ça, c'est un peu aussi comme quand on voit dans des églises romanes, à l'intérieur de l'église, on voit des gargouilles où, tout d'un coup, il y a un moine sculpté qui se masturbe, par exemple. Là, dans une église, c'est possible, parce que tout d'un coup, c'est chasser le mal. Donc, il y a un grand grand désir de violenter un petit peu l'époque. Et là, en effet, notre ami Jérôme Bosch violente son époque.
Alors, Jérôme Bosch, vous allez répondre, Alain, immédiatement. Et Jérôme Bosch, au fond, lui, ne résiste pas à la tentation de se laisser aller.
Mais encore une fois, à mon avis, il ne se laisse pas aller. Et vous avez droit à ce que vous indiquez. Et vous avez droit à tout. Vous avez même droit au reste. Vous avez même droit à l'exemple, si vous voulez. Puisque je l'indiquais, pour Jérôme Bosch, Jérôme Bosch construit une morale. Il construit une morale sociale. Il construit une sorte de rapport au désir. Il se dit, il laisse exprimer le désir. Et le désir est présent. La tentation est présente. La sexualité est omniprésente dans l'œuvre de Jérôme Bosch. Et en même temps, c'est une sexualité qui est incitée d'une certaine manière à la maîtrise. Elle est entre l'énonciation et entre la dénonciation. Et il y a chez lui une forme, et c'est son rôle de moraliste et d'homme spirituel aussi, il est dans l'admonestation. Il nous dit des choses. Alors, cette diversité que représente, dans cet fourmillement que représente la tentation de Saint-Antoine, il y a en effet cette temporalité. Et cette temporalité, elle est celle de la précision, elle est celle de l'intention, comme elle est celle du rêve ouvert.
Moi, je crois que il se sert du mythe de Saint-Antoine avec ses tentations, justement, pour exprimer quelque chose qui était exactement le contraire, c'est-à-dire déborder de sexualité au premier degré. Je ne pense pas que le spectateur de l'époque, comme celui d'aujourd'hui, se retrouve devant un tableau plein de morale et qu'il a envie et que ça soit un moment. C'est-à-dire, quand on est devant le Christ de Van Eyck, par exemple, là, tout d'un coup, vous pouvez avoir une sensation de sagesse, de sur la mort, de méditation et tout ça. Mais là, je prends même pas ça comme une... Il y a des cadavres qui sortent des arbres, etc. On pourrait dire, est-ce que c'est une méditation sur la mort? Mais pour moi, c'est... Oui, il y a la mort, mais il en joue d'une manière, encore une fois... poétique, c'est-à-dire,
bien sûr.
C'est sérieux, mais c'est aussi totalement déconnant.
Mais bien sûr. Pardon, Alain Tapier, est-ce que Frenger ne disait pas tout à l'heure qu'on ne pouvait pas les mettre dans les églises?
Mais ces tableaux n'étaient pas destinés, en effet, aux églises.
Parce que difficile à installer dans une église.
Ils étaient destinés à des méditations. Ces méditations, comme Bosch le pense, cette méditation consiste en un chemin personnel à mener. Ce chemin se mène avec des exemples. Ces exemples ne laissent rien cacher de la réalité la plus triviale, parfois la plus cruelle, mais en même temps, ils ne cachent rien aussi du plaisir, du bonheur et du gai savoir, comme vous le disiez. N'oubliez pas la moitié du monde. Gardez les deux parts, je vous le dis. Et vous en trouverez encore plus heureux et encore plus, je dirais, intelligent quant à cette peinture, vous voyez. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que souvent les peintures, bien sûr, fonctionnent comme des miroirs. Les saints sont là pour nous servir de miroirs et d'exemple. Chez Bosch, il n'y a pas de miroir. Vous avez remarqué que les figures sont petites. Pourquoi est-ce que Bosch utilise la figurine?
Quand vous dites qu'il n'y a pas de miroir, c'est au sens propre, parce qu'il y a des miroirs dans
oui,
Bosch.
Oui, mais il n'est pas miroir. Il ouvre le chemin, mais il ne nous donne pas des exemples au sens traditionnel, tel qu'on les trouve par exemple, dans la peinture des primitifs flamands, où on a plus un effet de miroir et d'exemple.
Vous parlez de morale.
Alors, regardons justement ces tableaux. Ce sont des petites figures. Pourquoi est-ce que le Christ est si petit? Pourquoi? Parce que le Christ s'absente. Il nous laisse rentrer dans le tableau. Il nous laisse circuler dans l'image. Hein. Et toutes les figures nous laissent libres. Alors, évidemment, la gaieté, la joie est là, mais il y a une finalité quand même, qui est une finalité tragique, qui est celle de la chute. Oui.
C'est votre vision.
Non, c'est pas ma vision.
C'est votre interprétation.
Ah non, elle est très largement partagée.
Mais par exemple, oui, ça, c'est fort possible qu'elle soit très largement partagée, mais c'est pas parce que le Christ est tout petit qu'on en conclut ce que vous venez de dire. C'est, encore une fois, votre observation, votre analyse, votre tableau, mais moi je pourrais vous tenir un autre discours sur le fait que le Christ soit si petit. Je me suis pas penché sur le fait qu'il soit petit. Mais à mon avis, il fallait qu'il soit là pour que le tableau soit pas directement brûlé.
C'est l'usage dans l'histoire de l'art, dans l'art, la pratique artistique, c'est l'usage de la figurine. Et cet usage de la figurine permet une plus grande malléabilité des récits. Tout à l'heure, je le disais, pourquoi ces petites figures? Ces petites figures permettent beaucoup plus facilement l'hybridation. Et l'hybridation permet l'ouverture des récits. Vous voyez, oui. On peut se raconter des tas d'histoires grâce à cela.
Mais aussi, ces petites images sont dans le même tableau. C'est pas une seule image qui représente un seul, je sais pas, squelette dans un drapé. Ce n'est pas un seul cadavre. C'est pas un seul personnage fou avec son entonnoir sur la tête. C'est une multitude de détails qui
est... C'est très polysémique, vous voulez dire.
Oui, c'est une image à facettes. Et il faut jamais, surtout avec Jérôme Bosch, jamais oublier
cette ambivalence des choses.
Cette peinture à facettes qui n'existait pas à l'époque. Quand on voit, par exemple, il est mis dans la peinture flamande, ce mouvement de la peinture flamande, etc. Mais si on prend tous les peintres de son époque, ce sont des vierges, ce sont des Christs, ce sont des personnages, des commandes, etc. Mais c'est une scène comme ça, et c'est dans un grand classicisme. Mais lui, il sort complètement des normes. D'ailleurs, la preuve, c'est comme tu le disais tout à l'heure, il ne peut pas rentrer dans les églises. Donc, le côté moral, c'est pas évident du tout.
Alors, mais il peint quand même beaucoup dans les églises aussi.
Aussi.
De façon un petit peu à part. Et juste un petit mot encore, les récits, tous les récits sont là, ce sont les récits du temps. Il y a des artistes de l'époque, un architecte, un graveur de son temps, qui s'appelle Allard Duhamel, travaille avec lui, travaille comme lui, et produit les mêmes, je dirais, fantasmagories.
Mais c'est pas la même écriture. Je vous propose...
Oui, c'est de neveu de travailler avec lui, par exemple. Donc, ils étaient bien obligés d'être dans son écriture.
Alors, je vous propose justement d'écouter un nouvel extrait du Royaume millénaire, le livre que consacre Frenger à Bosch, et dans lequel il aborde l'œuvre du peintre sous l'angle de l'occultisme, de l'ésotérisme, de la sorcellerie. Mais il commence en disant, vous allez l'entendre, que Bosch ne se soucie guère des finesses dogmatiques.
Bosch et le libre esprit ne se sont guère souciés des finesses dogmatiques. Dans ses métaphores de l'ibis et de la salamandre, Bosch montre qu'il considère la destruction de l'animal par l'animal comme une nécessité de la nature. Il valorise ainsi la mort et en fait un des principes de la création de l'univers. Elle n'est donc pas simplement un mal rendu héréditaire par la chute, il a complètement dissocié la mort de la chute, en l'incluant dans ce paradis où Adam et Ève vivent encore à l'état d'innocence. Du point de vue du dogme, c'est une hérésie, mais du point de vue philosophique, c'est une pensée qui signale la conception libre-spiritiste du monde et de la nature comme un audacieux syncrétisme, une tentative pour combiner doctrine chrétienne du salut et sagesse ésotérique de l'Antiquité. Partout où le mouvement se répandait en Europe de l'Ouest, les archives des cours de justice font référence à la même idée de base, Adam, au même titre que le Christ, considéré comme support de la révélation, les grottes de culte souterrains comme paradis, et la nudité rituelle associée à un amour marqué de religion, considéré comme innocent et au-dessus de toute sensualité, et qui était appelé en général l'amour angélique. Wilhelm Frenger, Le Royaume millénaire de Jérôme Bosch, 1966. Riders on the storm, riders on the storm,
into this house we're born. Vous ne le savez peut-être pas, mais Jim Morrison, que nous venons d'entendre, a fait donc une thèse très admirée à l'époque sur Jérôme Bosch, qui a eu des félicitations de son jury et qui était sur la relation de Jérôme Bosch avec les Adamites, qui essayait de revenir, comme on l'entendait à l'instant avec Frenger justement, à la source adamique, à la nudité, à la source adamique d'une vie avant la chute. Gérard Garoust, je lis un texte de vous dans lequel vous écrivez « Je cherche des vérités qui sont bien au-delà de la peinture. La peinture devient finalement assez accessoire par rapport à mon questionnement. » Alors, ça a l'air un peu contradictoire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, puisque vous interrogez assez largement dans votre travail, qui est aussi philosophique ou philologique, les textes très profondément.
Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la peinture, c'est pas ce qu'il y a de plus important. La peinture est un outil au service de la pensée. Mais cette pensée, ça peut être la poésie, ça peut être la politique, ça peut être la psychanalyse, le rêve, ça peut être... Donc, en ce qui me concerne, en effet, je m'intéresse à ce rapport entre la peinture et les interprétations. Vous savez, en ce moment, je travaille sur, non, même pas sur les mythes, mais sur les mots et les lettres à travers le Talmud. C'est un travail que je fais pas tout seul, et je me sers comme outil, entre autres, à un moment donné, ça passe par des tableaux. Cela étant dit, quand on voit les tableaux, j'attends pas à ce qu'il y ait un guide à côté qui fasse un commentaire sur le tableau. Parce que, justement, le tableau appartient à celui qui le regarde. Mais moi, à un moment donné, il me fallait mon délire, mon histoire, etc. Et je crois que c'est un peu la même chose que Jérôme Bosch. Ce que je voulais dire par rapport au texte que l'on entend, c'est que si tout d'un coup vous me faites partir sur ce que je vois là...
Ce fruit pourri à l'intérieur.
Cette espèce de tomate pourrie avec un étrange singe qui tient un sabre, qui lui-même est près d'une espèce de tortue ou un poulet sans tête avec un autre animal à tête de lapin, de tête de mort, etc. Vous me faites partir là-dessus et moi je vais délirer, je peux délirer comme n'importe qui. D'ailleurs, chacun va délirer à sa manière. Vous allez peut-être y trouver une source d'une fable particulière. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans la peinture, c'est que on part, et ce qui compte, c'est à la limite, c'est pas le tableau, c'est la manière dont on peut de ce tableau partir dans la pensée.
Oui. C'est-à-dire que le tableau ouvre notre pensée à une dérive qui est passionnante et créative, qui nous permet de penser en poète à un moment donné.
Et c'est ça que je reproche un petit peu dans notre époque contemporaine. C'est, je citerai pas de peintre, mais l'idée, c'est, on est dans une époque très formelle. On croit encore à la force de l'originalité, ce qui a été extraordinaire au XXe siècle, mais on est quand même au XXIe. Et l'univers des formes, c'est l'originalité, le côté iconoclaste. C'est Jérôme Bosch nous invite à revenir au symbole, à revenir au mythe, au jeu de signes. Et de...
Alors, moi, j'ai l'impression, Gérard Garousse, que Jérôme Bosch nous invite à participer à sa rêverie extraordinaire et donc à réinterpréter les choses. Je suis néanmoins curieux de savoir... Où est-ce qu'il a puisé? Je suis assez curieux. Alors, c'est vrai que ça ne doit pas me limiter dans mon interprétation. Alain Tapier, peut-être que vous pouvez nous dire, il y avait des bestiaires, il y avait des poésies, on puise où? Une héraldique?
Mais il y a quantité de textes, il y a des graveurs qui gravent des choses très proches. J'en ai cité un en particulier. Il y a un texte de Sébastien Brandt qui s'appelle La Nef des Fous et qui raconte comment le monde est fou. La folie, c'est beaucoup de choses en même temps. La folie, c'est la sottise. La folie, ça peut être aussi le vagabondage, la dispersion. Ça peut être cette manière d'être inutile au monde. Il y a, comme je le disais, chez Bosch, un moraliste aussi. Mais un moraliste, il est presque jésuite avant la lettre. C'est-à-dire qu'il ne faut, il ne parle que des choses que l'on peut goûter, que l'on peut connaître, que l'on peut craindre même, avant même de dire qu'elle devrait être connu et maîtrisé.
Mais la folie se renverse aussi.
Le rapport qu'il a à l'amour, par exemple, c'est un rapport où il énonce la relation amoureuse. Il énonce l'amour, il le montre, mais il le montre comme une recherche d'équilibre. Il est déjà stoïcien. Il redevient stoïcien, comme le deviennent les artistes au XVIIe siècle en particulier. Et toute son invention est là aussi formidablement.
Il y a une parole de Lacan que j'aime beaucoup, c'est « on en sait plus qu'on en dit ». On en sait plus qu'on en dit. Oui. C'est-à-dire que tu crois savoir beaucoup de choses, mais en fait, on sait beaucoup plus que tu en dis.
Donc, ça veut dire qu'il y a une partie du savoir qui ne se sait pas.
Oui, par définition, elle est inconsciente, mais elle est là, elle existe. Alors, ça va de l'image subliminale que tu rencontres à travers un rideau dans une pièce, où tout, il n'y a pas de filtre dans l'inconscient. Donc, tout d'un coup, il y a un conte que tu as lu qui est important, que tu aimes, une histoire d'amour que tu as vécue qui est importante, qui va se retrouver dans le tableau, mais aussi une discussion, mais aussi glisser sur une peau de banane. Tout, il n'y a pas de hiérarchie dans des associations d'idées. regarde ce tableau, ce triptyque, c'est aussi une association d'idées flottantes comme ça.
Je pense qu'il y a une, on pourrait raccrocher beaucoup de choses à d'autres éléments, mais on a l'impression qu'il y a une comment dirais-je, il doit glisser dans son imaginaire d'un point à un autre probablement.
Oui. Et je souligne le fait que on est dans la figuration, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir ce que devient la lecture de ce tableau aujourd'hui. Qu'est-ce que devient, est-ce qu'il y a puisque c'est une question que beaucoup de critiques se posent, est-ce qu'il y a un avenir dans la figuration? Ce tableau nous prouve qu'il y a encore...
Il y a beaucoup à creuser. J'ai une question à vous poser, Alain Tapier. Gérard Garousse a lui-même d'ailleurs travaillé beaucoup sur le jeu, les principes du jeu avec les règles du jeu. On a l'impression qu'il y a un jeu qu'il nous propose dans la lecture, dans le décryptage, dans la recréation par nous-mêmes.
La complexité même du propos de Bosch fait qu'il ne peut y avoir qu'un jeu. C'est-à-dire qu'une forme de combinatoire. Bosch est à une sorte de cuisinier. Le sujet, c'est nous, puisque c'est la bêtise. C'est la bêtise humaine qui va le conduire à sa chute. Et il n'est pas du tout positif de ce côté-là. Mais il est au quotidien presque positif, car tous les ingrédients du monde sont là. Et c'est en cela que c'est un extraordinaire magicien, si l'on veut, mais cuisinier, je préfère ce terme. Et cette combinatoire formidable, c'est une combinatoire qui place au cœur, au centre, la question de la séduction. Cette manière de toucher, de franchir la barrière de la séduction, de tomber dans le péché, mais en même temps de l'énoncer, et nous sommes toujours au bord de la crête, et c'est en cela que c'est passionnant.
Alors, je vous propose d'écouter enfin un extrait de l'analyse de l'historien d'art Dorfless sur l'œuvre de Jérôme Bosch.
Dans le premier groupe d'œuvres, Bosch se contente le plus souvent de cette perspective approximative qui régnait encore au XVe siècle dans les Flandres, avant que l'enseignement des grands artistes italiens ait été assimilé. Un second groupe est celui des grandes compositions fantastiques, des triptyques complexes. Là, l'artiste utilise le plus souvent sa très particulière vision spatiale. Les figures sont échelonnées en bandes horizontales ou légèrement obliques, du haut en bas du tableau. La profondeur est seulement indiquée et n'est même pas recherchée comme telle. Les figures se meuvent et sont plongées dans un espace amorphe, vague, impalpable, que je voudrais appeler espace onirique. En effet, les visions de Bosch ne sont-elles pas de vrais rêves? L'atmosphère dans laquelle se déroulent ces épisodes est bien celle du rêve, et comme telle est privée de cette troisième dimension fictive propre à l'espace tellurique. C'est pourquoi dans ces peintures, les figures apparaissent souvent sur un premier plan continu auquel se juxtaposent des feuilles d'espace plus éloignées qui forment le fond, mais qui n'ont avec le premier plan qu'un rapport de contiguïté et partent d'un point de fuite complètement différent. C'est un système analogue à celui de la perspective imbriquée, chère à l'enfance, qui est employé ici. Les divers plans s'y côtoient tout en restant distincts et sans intégration réciproque.
Donc nous venons d'écouter ce texte de l'historien d'art Dorfless. Vous vouliez réagir tout de suite, Gérard Garousse, et après j'ai une question à vous poser à Alain et à vous-même.
Oui, il donne une explication sur le fait qu'il y a des petits détails comme des feuilles, des mais en fait, ça peut être pour une toute autre raison. Tout d'un coup, il y a un sol qui est assez grand par rapport à l'ensemble du tableau. Bon, ben il y met quelques pâquerettes, quelques feuilles pour habiller le sol.
On a quand même l'impression parfois, Gérard, qu'il y a un caractère symbolique.
Oui, bien sûr qu'il y a. Mais ce symbole, ça me fait penser à une interview de Giorgio de Chirico où tout d'un coup le critique lui demandait : mais vous avez fait un tableau avec des pâtisseries, là, pourquoi tout d'un coup en premier plan ces pâtisseries? Alors il s'attendait à une quelque chose de très symbolique, et Giorgio de Chirico lui répond: ben c'est simplement parce que tous les matins je passe devant cette pâtisserie, j'aime beaucoup les pâtisseries, et j'avais envie de peindre les pâtisseries. C'est-à-dire que il faut aussi complètement tous les détails et tout ça, ce sont des invitations à ce que chacun délire à sa manière. Mais la vérité, elle appartient à Jérôme Bosch. Jérôme Bosch n'est plus là pour parler de sa vérité. Donc à nous d'avoir chacun notre vérité, mais à chacun, il y en a pas un qui pourra dire la même chose. C'est pour ça que le tableau appartient à celui qui le regarde.
Alors c'est le thème de l'émission. Alain Tapier, quelle est votre vérité ?
Et je n'ai pas de vérité, mais j'ai donné au début un certain nombre de possibilités de lecture que je n'ai pas inventées, évidemment. C'est le fruit du travail de l'historien. Quand je dis que le tableau se regarde à partir de sa dimension littérale, quand je dis qu'il a les allusions, quand je dis qu'il est allégorique, quand je dis qu'il est emblématique, quand je dis que les hybridations permettent non seulement à Bosch, mais à tout un chacun, de fabriquer sa propre vision, je crois que l'artiste est comblé, quand bien même il voudrait dire que là, la pâquerette n'est absolument pas voulue. Il est comblé de toute façon. Il a tout ce qu'il lui faut et rien ne lui est enlevé. Ce qui, pour autant, tout est écrit chez Bosch. Tout est écrit, même l'écriture invisible, même le sens à venir est déjà écrit. Lorsque vous avez ces hommes nus qui, dans le jardin des délices, tournent autour d'une mare où sont les jolies jeunes femmes. Ces jeunes femmes sont des sirènes, ne sont pas des Vénus. C'est le mythe antique de la séduction, mais ce sont des figures plus nordiques. Et ces hommes se promènent sur des licornes, mais on voit bien que les animaux les guident. Ils ne sont pas maîtres de la conduite de leur propre vie. Et ils sont menés, séduits, menés en bateau, en quelque sorte. Là, il y a une véritable conduction du sens, mais il n'y a pas, loin de là, une totalité du sens.
Je comprends. Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. À partir du moment où il y a une ouverture sur tout ce qui n'est, tout ce qu'on ne dit pas ici tout de suite, eh bien tant mieux. Je veux dire, il faut, c'est impossible de fermer ce tableau par une espèce de logique. Alors on peut parler de chaque symbole, mais encore une fois, un symbole c'est fait pour s'interpréter.
J'avais commencé comme ça. Donc, en effet, vous êtes satisfait.
Pourquoi avez-vous choisi Alain Tapier ce texte d'Orfless qui parfois est contesté?
Ben parce que je trouve intéressant que cet historien s'occupe de l'espace. Car en effet, bien souvent, chez Bosch, lorsqu'il fabrique ses hybridations ouvertes, c'est l'espace, c'est l'air qui devient symbolique. C'est la lumière, ce sont les éléments. Bosch a la capacité à rendre les éléments dans ce symbolisme généralisé tel que les romantiques ont su l'utiliser. L'eau, l'air, la terre, le feu. Et en particulier le feu. Et donc, il rend ce symbolisme généralisé, et pour cela, il lui faut un type de construction qui ne privilégie pas des hiérarchies d'espace. Et il n'a pas de hiérarchie d'espace chez lui. Même dans la profondeur, il n'y a pas de hiérarchie d'espace. Les lointains sont aussi importants et signifiants que les motifs de près, et il a un usage, on dira très contemporain de la page, bien sûr, très vertical. Mais il n'est pas pour autant dans une perspective dite atmosphérique. Il joue de tout cela. Et c'est pourquoi j'ai choisi, enfin, j'ai proposé.
Gérard Carouste. Toute proportion gardée, je ne suis pas Jérôme Bosch, etc. Mais en tant que peintre, j'ai toujours sur moi un carnet, je fais des projets, mes esquisses dans mes carnets sont très abouties, et puis arrive le moment où je commence le tableau. Je fais le tableau, il arrive les empattements, etc. Et je dis toujours qu'à un moment donné, c'est plus moi qui fais le tableau, c'est le tableau qui me fait. Parce que tout d'un coup, je sais pas, il y a un ciel bleu qui est trop grand et il faut que je l'habille d'une manière ou d'une autre par un arbre, par quelque chose. Donc à un moment donné, c'est la forme qui décide et si vous y voyez dans cet arbre sans feuilles par exemple, si vous y voyez une allusion à je sais pas quelle symbolique, eh bien très bien, mais moi il est possible que j'ai mis cet arbre parce que tout d'un coup ça déséquilibrerait le tableau.
Pour Jérôme Bosch, il y a des textes en parallèle, il y a des références en parallèle, il y a une culture commune et partagée, comme l'arbre creux en particulier, qui fait que il a la malice, il a le sens du jeu, il a le sens de l'interpellation et de l'admonestation de mettre cet arbre avec éventuellement une jolie créature à l'intérieur, et là quelque chose est dit.
Oui, mais il n'y a pas que ça.
Il y a déjà ça.
Gérard Carouste, quand un tableau se fait, dans ce que vous dites, on comprend que le tableau à un moment donné, continue sur sa propre exigence. C'est-à-dire qu'il génère des choses qui vont venir le compléter. Mmh. Est-ce qu'il y a néanmoins dans votre travail, là je parle de vous cette fois-ci, pas de Jérôme Bosch, à certains moments, une intention symbolique très précise?
Oui, oui, bien sûr. Le sujet est très précis. Le sujet est très précis. Donc là, par exemple, pour répondre vraiment à votre question, je travaille sur une page 73A du Talmud d'un maître qui s'appelle Rabba Bar Barana. Et ce maître, tout d'un coup, il lui arrive des petites agadotes, c'est-à-dire des petites histoires à dormir debout, comme on le prétendait même à l'époque, des petites histoires qui font curieusement penser à Jérôme Bosch, parce que ça n'a ni queue ni tête, c'est complètement surréaliste. Eh bien, le travail commence à... Rien n'est au hasard dans ces agadotes. Ce sont des jeux de mots, des jeux de lettres à l'intérieur, et c'est tout d'un coup... moi, je ne suis pas talmudiste, mais... Tout d'un coup, ça devient un sujet et ça construit le sujet de mon tableau.
Et qu'est-ce que vous pensez que dans 30 ans, dans l'émission Les Regardeurs, on regardera ce tableau? Est-ce que ça a un intérêt que nous sachions la source?
Alors, non, aucun. Pourquoi? Enfin, je veux dire par là que, encore une fois, moi, tout ce que je me raconte à l'intérieur de l'atelier, c'est une chose. Le tableau sorti de l'atelier... Comment sa vie, et comme je vous le disais tout à l'heure, je suis pas pour qu'il y ait un mode d'emploi pour comprendre le tableau, mais je crois par contre, ça c'est comme une intuition, je crois, dans la mesure où par exemple le Talmud est quelque chose d'assez universel et quelque chose de très intérieur, je crois que dans la manière dont je traite le tableau, où il n'y a rien qui puisse faire penser qu'il y a quelque chose de talmudique après, et je crois que
ça se ressent
quelque part, et il y aura toujours des étudiants des étudiants qui auront lu des passages, des bouts de catalogue, et qui ressortiront des textes comme je sais pas, quand j'ai fait l'exposition de En chemin, la Fondation Magde, le catalogue abordait ce genre de questions. Donc à un moment donné, il y a une lecture de la peinture qui n'a rien à voir avec le tableau.
Alain Tapier, vous et moi, nous sommes malgré tout un peu historiens d'art, on sera bien forcés d'aller chercher les sources.
Oui, il faut d'autant plus chercher les sources que les sources ne vont pas épuiser le tableau. Alors, si elles l'enrichissent, c'est un bénéfice formidable. Et c'est bien dommage de ne pas chercher les sources.
Est-ce qu'on sait tout sur Jérôme Bosch
aujourd'hui? Mais non, on ne sait pas grand-chose. On a 45 documents avec des histoires de l'eau, de l'eau peinte.
Il y a aussi beaucoup de dessins.
On a 20 dessins aujourd'hui authentifiés comme tels.
Qui sont magnifiques.
On a 25 peintures authentifiées comme telles. On a simplement cette idée que très tôt, il a inquiété. Très tôt, il a inquiété, et très tôt, l'inquiétude qu'il représentait a été vraiment, je dirais, la source de sa célébrité. Je voudrais juste citer Ludovico Guicciardini, qui en 1567 fait une description des Pays-Bas, et il parle de ce peintre, inventeur très noble et admirable, donc il l'aime, de choses bizarres et fantastiques. Ensuite, Karel van Mander cite un portrait en 1604, un portrait donné par un érudit de l'époque. Et ce portrait, il existe en effet, un portrait de Bosch qui était gravé en 1572. Il dit, que veut ce visage plein de terreur, Jérôme, et la pâleur de tes joues?
C'est vrai que le portrait, la gravure de Jérôme Bosch, et on voit un ascétisme dans le personnage.
Il y a une inquiétude chez cet homme. Il y a une inquiétude, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui nous a montré tous les aspects de la vie, mais qui nous évoque la question de la chute quand même.
Alors, chers amis regardeurs ou amateurs de notre émission Regardeurs, vous êtes invités à interpréter, à chercher, à creuser dans ce tableau merveilleux, cette peinture de toute beauté. Il me reste à vous remercier beaucoup, Gérard Garousse,
merci
d'avoir été avec nous. Alain Tapier, merci infiniment de votre savoir et de vos commentaires.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons ensemble regardé, interprété, rêvé sur l'œuvre intitulée ou souvent intitulée La Tentation de Saint-Antoine, réalisée vers 1510 par Jérôme Bosch. Et je vous signale qu'en ce moment, pour fêter les 500 ans de la disparition du peintre, a lieu une grande rétrospective jusqu'au 8 mai au Noord-Brabant Museum à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, sa ville natale. Donc, Alain Tapier le formulera mieux que moi. Mais enfin, en tout cas, grande rétrospective Jérôme Bosch jusqu'au 8 mai à Bois-le-Duc. Et il y aura aussi une rétrospective au Prado à Madrid. Donc, vous retrouverez toutes les références des livres, des musiques, des projets pendant l'émission, évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet Sylvia Favre, merci Sylvia. Lecture des textes, La Belle Voix de Claude Aufort. À la technique, Philippe Palares. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Merci Anne-Pascale. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy. Et dans quelques instants, Catherine Libère et Ville Monde.
Come until you go, babe. Go to come for me, babe. Come to go by.